Bonjour, ici Marc, bienvenue au 41e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast pour réapprendre le bonheur. Ici, mon but est de partager avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la sixième partie sur les solutions pour se soulager de l'angoisse avec des choses qui ont été efficaces pour moi. Je mets l'accent sur l'angoisse, mais en grande partie, les solutions dont je parle sont valables aussi pour les autres conséquences, comme la dépression et les dépendances diverses et variées, de n'avoir pas encore eu l'opportunité de se développer suffisamment émotionnellement. Au passage, je vous rappelle que si vous voulez de l'aide pour ça, vous pouvez me demander, et vous ne payez que si vous obtenez les résultats que vous voulez, ce qui me paraît plus équitable que ce qui se pratique habituellement en psychothérapie. Voyez-vous-même sur bonheurpourtous.info, la rubrique consultation. Voici donc la sixième partie sur les solutions pour l'angoisse, dépression, dépendance et autres difficultés émotionnelles. La dernière fois, on a vu des tests pour savoir si son amour-propre est satisfaisant ou pas. Maintenant, une liste de choses qui pour moi ont été utiles. J'espère qu'au moins certaines vous aideront vous aussi à vous accepter tel que vous êtes et à vous aimer vous-même. Première chose, Stephen Porges explique que, instinctivement, le contact peau contre peau, c'est ce qui rassure le plus les enfants. Au début de mes 5 mois d'angoisse très très forte, ma mère m'a dit que elle trouve du réconfort à se prendre elle-même dans ses bras, une main de chaque côté du cou. Moi, ça marchait pas, à cause des défenses que j'avais contre m'aimer moi-même. Jusqu'à ce que je trouve cette idée. J'ai imaginé que ce n'est pas moi que je réconforte, mais l'enfant que j'ai été, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Comme ça, mes défenses ne se déclenchent pas, puisque c'est pas moi. Je fais comme avec un bébé, la main qui soutient la tête et le cou, avec plein de tendresse et en faisant bien attention à être doux, parce qu'un bébé c'est fragile. Et ça marche, le contact de la peau apporte son effet tranquillisant, j'ai une agréable sensation de bien-être qui m'envahit. Quelques mois plus tard, quand avec la technique de Peter Levin que j'ai expliquée auparavant, et avec des choses que je vais donner après, mes défenses se sont relâchées, je n'ai plus besoin de penser que c'est l'enfant en moi que je réconforte. Je peux maintenant m'apporter de la tendresse et de l'affection, donc du réconfort, à moi-même comme ça, quand j'en ai besoin. Deuxième chose, être généreux, gentil, attentionné avec moi-même en m'offrant des choses agréables. Comme prendre le temps d'aller courir sur la plage ou en forêt. Au lieu de me dire que j'ai pas le temps parce qu'il y a trop de problèmes à résoudre. Ou au moins d'aller courir dans la rue si ça me paraît vraiment trop extravagant de prendre plus de temps que ça pour juste me faire plaisir. Ou alors faire un feu pour chauffer la maison au lieu de porter mes vêtements de montagne tout le temps et garder le bois pour quand les enfants sont là. En gros, écouter ce dont mon corps a besoin et me le donner au lieu de toujours remettre à plus tard ou chercher à économiser trop par peur de manquer. Voilà, alors là je donne des exemples pour moi, mais bon, vous vous adaptez pour vous-même les choses qui vous font plaisir. Troisième chose, savoir que même si je suis bon à rien d'autre, au moins pour mes enfants j'ai de la valeur. Ça m'a été très utile pour continuer à essayer pendant les mois où j'étais découragé parce que je pensais que je ne progressais pas. Quatrième chose, parler avec quelqu'un. J'ai vraiment eu de la chance de connaître cette amie d'un ami dont j'ai parlé au début. Elle s'appelle Zelda, on est amis maintenant, mais on ne se connaissait pas. Et de voir qu'elle trouvait au moins un peu de valeur à parler avec moi, puisqu'elle appelait tous les jours en allant au travail, ou au moins elle prenait de mes nouvelles par message, ça m'a beaucoup aidé à contrer l'idée que je ne vaux rien. Pareil que quand je parlais avec James, le psychiatre en formation, mais c'était qu'une heure par semaine, ce qui ne me suffisait pas. Cinquième chose, voir que Zelda acceptait que je révèle ce que je pense et ce que je ressens vraiment, au lieu d'une version aseptisée. Progressivement, ça m'a permis d'en venir à m'accepter moi-même. C'était difficile parce que j'avais peur. Tellement que des fois je n'arrivais pas à parler, ça prenait des secondes qui me paraissaient être des heures avant de commencer à dire ce que je voulais. Et plus je temporisais, plus ça devenait inconfortable et plus j'étais tenté d'abandonner et de dire « non, rien ». Toute ma vie, à chaque fois que je répondais à une question pour laquelle, quand j'étais enfant, il y avait un risque que je me fasse frapper, après une fraction de seconde, la peur me prenait et je perdais la conscience de moi. Je me retrouvais à jouer le rôle d'un enfant modèle. Je pouvais sourire, donner une réponse non compromettante ou mentir. Je cachais ma peur. J'en perdais d'ailleurs moi-même la conscience. Mon visage restait calme, parce qu'enfant, il était dangereux de montrer de la peur, mais il y avait de la tension dans mon ventre, ma poitrine, ma gorge, ce qui rendait ma voix plus aiguë, et j'avais chaud, je transpirais facilement. Donc, avec l'aide de Zelda, plus je voyais qu'il n'y a pas de danger à être moi-même, au lieu de montrer la façade que j'avais l'habitude de présenter, plus ça m'a permis d'accepter la personne que je suis vraiment derrière le masque que je présentais. Sixième chose, jouer des scènes. Par exemple, avec James, en vidéo par internet, il a joué le rôle de l'enfant que j'étais vers 8 ans, et moi je faisais mon père. J'étais en train de regarder les nouvelles à la télé, et lorsque mon fils me demande quelque chose, j'aboie « pas maintenant !» Et ensuite, il a le culot de me déranger une deuxième fois. Et là, j'ai joué le rôle de mon père se mettant en colère, qui crie tellement fort. Ça m'a aidé à prendre conscience de la terreur que ressentait l'enfant que j'étais, quand mon père s'emportait comme ça. Parce que je pouvais sentir l'énorme tension en lui, et qu'est-ce que ça pouvait être pour l'enfant qui se retrouvait la cible de ça. J'imaginais ce que ça ferait à mes enfants si moi je me retrouvais aussi enragé que ça avec eux, et je pouvais me faire une idée de la peur qu'ils ressentiraient. C'était moins difficile de sentir ça quand j'étais pas l'enfant, parce que quand j'essayais de ressentir les ressentis de mon enfance, ils étaient bloqués et je sentais rien, j'avais que des souvenirs intellectuels sans ressenti. Avec celle-là au téléphone, j'ai imaginé que j'étais à nouveau un bébé, pendant qu'elle prétendait être ma mère. J'ai des images de ma mère qui regardait ailleurs, pendant qu'elle me tenait dans ses bras, et je me sentais perdu, j'avais peur et j'osais pas bouger. Donc là, on a joué le contraire, avec ma mère qui me regarde et qui me dit qu'elle m'aime, et ça m'a donné un sentiment de sécurité, un grand soulagement. Et ça a pris quoi, un quart d'heure? Et ça a vraiment fait une différence pour moi, ça a contrecarré une impression qui, pendant des décennies, sans que je m'en aperçoive, me rendait difficile de m'aimer moi-même, puisque j'avais cette idée que ma propre mère ne m'aime pas. Septième chose, prendre conscience des handicaps que j'avais. Voir que c'est tout à fait compréhensible que j'ai des difficultés à, par exemple, gagner suffisamment pour dépenser ce que je voudrais, ou bien avoir une relation amoureuse satisfaisante, si, pendant mon enfance, je n'ai pas reçu tout ce dont j'avais besoin pour développer les aptitudes qui permettent ça. Et que, en plus de ne pas me développer, j'ai reçu des blessures handicapantes. James m'avait dit ça dès le début, mais il a fallu que j'attende 7 mois avant de pouvoir l'intégrer. Je pense que c'est parce qu'il y avait l'obstacle que formait la croyance que je ne vaux rien. Cette croyance servait à m'empêcher de voir que je n'étais pas en sécurité auprès de mes parents, vu que ça aurait été encore pire de les quitter, et du coup c'était difficile pour moi de voir à quel point j'ai souffert en grandissant. Donc ça a été un grand soulagement de voir que ce n'est pas de ma faute si j'ai des difficultés, vu les handicaps que j'avais. Je pensais que j'avais eu une enfance plutôt saine, avec des blessures pas plus graves qu'une écharde par-ci par-là. L'image que j'ai maintenant, c'est d'avoir grandi avec l'équivalent émotionnel d'un plâtre à chaque jambe. Pas étonnant donc que j'ai quelques difficultés dans la vie. M'apercevoir de ça, ça a permis de réduire les exigences que je plaçais sur moi-même, et de ressentir de la compassion pour moi-même, et d'accepter de prendre le temps nécessaire pour me soigner et développer les aptitudes que je n'ai pas eu l'occasion de développer jusqu'ici. En même temps, j'ai enfin compris ce que m'a dit il y a longtemps une amie très chère, comme quoi il y a des gens qui ont des handicaps sévères qu'on ne soupçonne pas parce que ce n'est pas forcément visible. Huitième chose, une des dernières pièces du puzzle, pour autant que je vois, est tombée en place 7 mois après avoir commencé à parler avec Zelda, en entendant dans une vidéo l'idée que les enfants ont de la valeur par le simple fait d'exister. J'étais d'accord pour penser que c'est vrai, pour moi, mes enfants ont une valeur intrinsèque. Il m'a fallu encore quelques semaines à laisser cette idée tourner dans ma tête pour réaliser que, puisque moi aussi j'ai été enfant, ça veut dire que moi aussi j'ai de la valeur par le simple fait d'exister. Cette vision m'a ouvert à la vue que j'ai de la valeur simplement parce que je suis un être vivant. Je fais partie de ce réseau incroyablement complexe de tous les êtres vivants sur cette planète, et peut-être ailleurs, dont la vie repose sur la matière qui nous entoure. Qui sait ce que chacun de nous contribue à ce tout? Comment notre existence influence peut-être ce tout? Chacun de nous est unique, aucun autre organisme n'est exactement le même. Ceci rend chacun de nous irremplaçable, et chacun de nous enrichit potentiellement la vie des autres, de différentes manières qu'il me semble que nous ne pouvons pas prédire, parce qu'elles dépendent de trop de choses. C'est bien possible que chacun de nous affecte le futur de l'ensemble de la vie dans l'univers. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Donc, de me voir comme ne serait-ce qu'une petite partie de la vie dans tout l'univers, ça m'apporte un grand soulagement quand j'en ai besoin, parce que ça me donne de la valeur par le simple fait d'exister. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, pas besoin de réussir quoi que ce soit. J'ai cette valeur simplement du fait d'être vivant. Je vois comment la vie est précieuse. S'il arrive quoi que ce soit qui endommage suffisamment notre corps, on ne peut pas le remplacer par un nouveau. Notre vie dépend de combien dure notre corps. On peut en prendre soin pour rester en bonne santé plus longtemps, mais ça reste une durée limitée. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? Je vois rien de plus précieux. Et chacun de nous, nous sommes une partie de la vie. Ça, ça nous donne de la valeur, juste en existant tel qu'on est, sans avoir à faire quoi que ce soit de plus. Voilà, la prochaine fois, je parlerai de ce qu'on peut faire pour calmer son angoisse à court terme, pour trouver au moins un peu de soulagement pendant qu'on travaille à soigner nos blessures et à développer les aptitudes qu'on n'a pas encore eu l'occasion de développer ou redévelopper celles qu'on a perdues. À bientôt. On arrive à la fin de cet épisode du bonheurpourtous.info. Si vous voulez aider à faire connaître le podcast, laissez un commentaire sur iTunes s'il vous plaît. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes ou sur Stitcher et aussi aux vidéos sur YouTube. Si vous voulez en faire profiter vos amis, parlez du podcast et des vidéos autour de vous et sur les médias sociaux que vous fréquentez. Dans le prochain épisode, on continuera avec les solutions pour l'angoisse, la dépression, les dépendances, etc. À bientôt !